Le gardien de la source, un roman mythologique dans une ambiance historique et locale.
Vanessa Terral n'en est pas à son premier essai dans le fantastique et transpose le mythe de Perséphone et Hadès au XIXe siècle. C'est le défi qu'elle s'est lancé pour son dernier roman, sorti le 13 janvier. Le gardien de la source est un livre de 393 pages qui se lit d'une traite et embarque le lecteur dans une aventure romanesque où le destin mène les personnages par le bout du nez. Dans les traces de Roméo et Juliette et d'Orgueil et Préjugés, ce roman mythologique nous plonge dans un cadre familier puisque l'action se déroule entre Allemagne en Provence, Fort-Calquier et Opedette. Sous la plume de Vanessa Terral, les Basses Alpes révèlent leur mystère et se parent d'une aura mystique insoupçonnée. L'héroïne Anne-Hélène, survivante inespérée d'un mal terrible et inconnu, n'est pas de celle qui se laisse dompter aisément et sa quête de maturité et d'indépendance plaira aux féministes les plus convaincus. L'auteur confie volontiers son intérêt pour la question de la femme dans les mythes, ainsi que sa passion pour les beautés provençales et la littérature. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alexia Baron, Vanessa Terral.
Vanessa Terral, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre nouveau roman, Le gardien de la source, qui est en fait une romance mythologique, c'est-à-dire que vous avez réinterprété le mythe de Perséphone et Hadès. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez eu cette idée de réinterpréter ce mythe-là ?
Tout est parti d'études des mythes par rapport à ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est-à-dire que beaucoup de mythes ont été retranscrits par des hommes. Et du coup, on a très peu d'interprétations et de visions des mythes et des archétypes vis-à-vis des femmes. Il y a un très très bon livre qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes, qui m'a beaucoup plu. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie d'interpréter, d'aller voir dans les mythes, surtout les mythes féminins qui sont petit à petit dégradés en contes, parce que beaucoup de contes sont à l'origine des mythes. Les mythes construisent le monde, les contes sont plus ce qu'on raconte dans le foyer, quelque chose de plus proche des gens. Et donc, le mythe de Hadès et Perséphone, qui à la base s'appelle Corée, ce qui signifie la fille. En étudiant l'histoire, j'ai vu cette bascule entre le moment où elle est juste la fille de Déméter, et un jour, elle se penche sur un Narcisse, et là, Hadès arrive, l'emporte, et elle devient reine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, c'est un petit peu toute la période de l'adolescence. Finalement, ce livre, c'est le passage à l'âge adulte.
Vous racontez l'histoire du point de vue féminin.
Oui, quand même plutôt. Après, c'est vrai que l'hasard est nécessaire, sinon on ne comprendrait pas certaines choses de l'intrigue. Mais c'est principalement du point de vue féminin, puisque ce sont les femmes qui sont mises en avant, même aussi par rapport à Marie-Constance, donc Déméter, qui vit aussi un traumatisme, puisqu'on lui enlève sa seule raison de vivre. Et c'est ainsi dans le mythe. Dans le mythe, pourquoi est-ce que les dieux se bougent les fesses à un moment donné ? C'est parce que Déméter, qui est la déesse des moissons, refuse de continuer à faire pousser les cultures, le blé, et ainsi de suite. Et donc, c'est même pas que les gens meurent de faim, c'est ça qui est génial avec la mythologie grecque, c'est que c'est horrible d'un bout à l'autre. C'est même pas que, parce que les humains sont en train de subir la famine, que les dieux tentent quelque chose, c'est parce que, comme ils ont plus à manger, ils peuvent plus faire d'offrande aux dieux. Et c'est les dieux ne recevant pas d'offrande qui se disent « Ah, faudrait peut-être aider les humains ». En fait, c'est très actuel, où les puissances ne bougent pas les fesses si on ne les oblige pas un peu.
Vous avez choisi de placer l'histoire dans notre région, et en particulier autour de Fort-Calquier et Man et Allemagne en Provence.
Tout à fait. En fait, lorsque je crée un roman, très souvent, je place mes histoires en France et quasiment toujours dans des lieux que je connais, que j'ai visités. Je trouve que ça a plus de sens. J'essaie de rendre aussi les beautés de ce monde. Et donc, avoir visité les dites beautés, c'est plus efficace pour les décrire après. Là, j'avais l'histoire en tête. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à l'ambiance que je voulais rendre, finalement, c'est la Provence qui est venue. Je pense aussi avoir été influencée par un des rares romans de Giono que j'ai lu. C'était les récits de la demi-brigade, où Giono a construit une ambiance très écossaise, enfin très lande au niveau de la garrigue, avec les genêts plongés dans le brouillard et tout. Et c'est cette ambiance que j'ai voulu rendre.
Pourquoi avoir choisi cette époque du 19e siècle dans votre histoire ?
Déjà, j'ai fait un roman historique parce que mon éditrice m'en a demandé. C'est-à-dire qu'elle trouvait que j'avais un type d'écriture qui faisait très auteur du 19e siècle. Et c'est vrai que quand j'étais enfant et adolescente, je lisais beaucoup plus d'auteurs du 19e que des auteurs actuels. Et elle m'a demandé de voir pour essayer de faire un roman de type gothique. Et je me suis dit, bah, quitte à faire un livre gothique, autant le placer à l'époque gothique, mais en France. Grosso modo, 1814-1816, la période du roman. Et de façon générale, c'est vrai que c'est une période de bouleversement, et comme l'héroïne vit elle-même un bouleversement, avec beaucoup d'hésitation, pareil, ça se passe lors du retour de Napoléon, donc est-ce qu'on retourne derrière l'empereur, est-ce qu'on fait de la monarchie, est-ce qu'on reste une république, qu'est-ce qu'on fait? Et ça rejoint les questionnements de l'héroïne pour ça.
Est-ce que c'était important pour vous, cette idée de plusieurs strates dans les personnages?
Oui, de façon générale, pour un peu tous les personnages, finalement, même si sur les autres, ça se voit moins, j'aime bien qu'on puisse ne pas rester au premier degré. Ayant quand même une bonne dose de fantastique, je dois énormément veiller à la vraisemblance. C'est pour ça que je colle au lieu, aux Pedettes, le château de Sauvant, même le château d'Allemagne. Enfin, je suis allée visiter tous ces endroits-là. Je les ai choisis, en fait, parce que je les ai visités. Ça a été le coup de cœur, notamment pour Opedette, où je me suis dit, waouh, c'est déchiré, les gorges d'Opedette, avec cette espèce de rocher qui existe vraiment, qui ressemble à un chien d'un côté, à un dragon de l'autre côté. Enfin, c'est top. Et c'est aussi beaucoup plus intéressant pour le lecteur. Et on entre beaucoup plus en empathie lorsqu'on voit que des personnages peuvent être forts et faibles.
Comment est-ce que vous avez travaillé cette idée du mythe et réussir à quand même faire quelque chose d'inédit?
En travaillant beaucoup les personnages en amont. Je suis vraiment intéressée à Hadès et Perséphone, j'ai tiré leurs traits principaux. Et après, j'ai mis aussi un petit peu de moi, de ce que j'aime trouver dans des personnages, de ce que j'aime écrire comme personnage. Des femmes qui savent se débrouiller et qui, lorsque tout tombe, vont pas se mettre dans un coin et pleurer. Finalement, je pense qu'on n'invente plus rien, que tout a déjà été créé au niveau du squelette des personnages, des archétypes, des histoires, des récits, les tensions, les thèmes. Tout a déjà été fait et en même temps, ça apporte une grande liberté puisque si tout a été fait, on se prend beaucoup moins la tête sur certaines choses et on peut vraiment se dire, ben dans ce cas-là, je vais le faire à ma façon. C'est plus une œuvre alchimique dans le sens où je vais prendre quelque chose et je vais le transformer par rapport à mes propres influences, donc beaucoup d'auteurs fantastiques du 19e. Et après, quelques auteurs plus actuels, par exemple, en jeunesse, je lisais Michel Honaker. J'ai cette sensibilité un peu de garrigue, de lande, de terrain brumeux, de mystère qui est juste à portée. Un de mes auteurs favoris qui m'a énormément influencé aussi, c'est Pierre Dubois, qui est elficologue, qui a écrit les grandes encyclopédies des fées des lutins. Et c'est toutes ces influences-là, finalement, qui transforment l'archétype de Perséphone et l'archétype d'Hadès en quelque chose d'un peu nouveau. Parce qu'entre l'origine et moi, il y a 4000 ans, 3000 ans d'histoire. Ça vient assez naturellement, puis j'aime bien ces ambiances très proches de la nature, c'est une grande source d'inspiration pour moi, et c'est ça aussi que j'essaie de rendre dans mes histoires.
Pour finir cette interview, j'aurais voulu savoir quels conseils vous donneriez aux lecteurs, où est-ce que vous souhaiteriez qu'ils lisent votre livre et dans quelles conditions?
Un jour d'été pas trop chaud, je pense. Ou s'ils s'enlèvent tôt ou couchent très tard, je pense qu'à l'aube, ça peut être sympa. Parce qu'il y a vraiment des lumières qui correspondraient à l'intrigue. Et une ambiance très calme aussi, à ces moments-là de bascule, justement, entre le jour et la nuit. Après, sinon, un verre de rosé à la main s'ils le veulent, un petit blanc.